De lire dans le livre d'Agée, chapitre 1er, commencerai au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, disant : Ce peuple dit : Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agée le prophète, disant : Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées ? Tandis que cette maison est dévastée. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu, et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est dévastée. Et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit. et j'ai appelé une sécheresse sur la terre et sur les montagnes et sur le blé et sur le mou et sur l'huile et sur ce que le sol rapporte et sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. Quelques lignes dans Esdras pour situer cette circonstance. Au chapitre 4, les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Et Zorobabel et Jéchua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, « Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, le roi de Perse. » Alors le peuple du pays rendit lâches les mains du peuple de Juda, et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur plan durant tous les jours de Cyrus, le roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, le roi de Perse. Chapitre 5. Et les prophètes Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda, à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéchua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et encore un verset au chapitre 6, au verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Ido. Et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès, le roi de Perse. Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, c'était la 6e année du règne du roi Darius. Nous voyons donc avec Esdras que nous connaissons ces circonstances, n'est-ce pas, comment le roi Cyrus a donné permission, même peut-être ordre, aux résidus d'Israël de retourner à Jérusalem pour construire la maison de l'Éternel qui est Dieu à Jérusalem. L'ordre du roi a été entendu par un petit nombre. Une cinquantaine de mille hommes, même pas, sont montés avec Zorobabel et Joshua pour reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils ont posé l'autel sur son emplacement, rétabli l'autel sur son emplacement. Ils ont commencé aussitôt à offrir les sacrifices que l'Éternel avait commandés par Moïse. Et puis ils ont posé les fondements du temple. Et puis, comme nous l'avons vu, l'ennemi s'est tout de suite manifesté, car lorsque nous marchons dans le chemin du Seigneur, il est évident que nous rencontrons tout de suite l'ennemi. Il n'y a rien d'étonnant à cela, c'est normal. Il est normal que si nous obéissons au Seigneur, soit individuellement, soit collectivement, nous rencontrerons tout de suite l'ennemi et les artifices du diable pour essayer de nous détourner de ce chemin-là. L'ennemi ne peut pas supporter que les disciples du Seigneur soit obéissant. Il a été vaincu par celui qui a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et il serait encore vaincu constamment si les croyants, les disciples, étaient obéissants eux aussi, comme leur maître l'a été. Alors l'ennemi s'est manifesté. Et nous avons vu que Israël a baissé les bras. Ils se sont découragés. L'ennemi était là, ils se sont découragés. Ils avaient peu de force, ils étaient peu nombreux. La ville était détruite, les murailles étaient écroulées. Ils se sont découragés. Pendant 15 ou 16 ans. Nous ne devons pas nous décourager. Parce que c'est une chose qui aussi peut nous atteindre, le découragement. Le découragement, c'est un manque de foi. Le découragement, c'est lorsqu'on a perdu de vue que celui qui est notre chef, notre maître, est le Tout-Puissant. Et c'est quand on a perdu de vue le chemin du Seigneur. Car si le Seigneur nous commande quelque chose, il nous donne la capacité d'accomplir ce qu'il commande. Et si nous perdons de vue le Seigneur, nous verrons le travail ou le service qui est devant nous et nous sentirons notre incapacité et on se découragera. Découragement, c'est un manque de foi et nous devons y être attentifs, attachés au Seigneur. Nous, comme il est dit dans les Éphésiens, vous fortifiant dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La puissance est à lui, la force est à lui. Elle n'est pas en nous, elle ne sera jamais en nous, la force. Et quel que soit le service qui est devant nous, individuellement ou collectivement, nous n'aurons jamais la force. La force est au Seigneur. Et lorsqu'il nous confie un service, alors c'est lui au travers de nous, c'est sa force à lui, au travers de notre faiblesse, qui va l'accomplir. Nous voyons très bien cela dans l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ayant eu une révélation plus que d'autres, ayant servi un ministère plus étendu que celui des autres apôtres, eh bien, il risquait d'avoir une faiblesse. S'enorgueillir. S'enorgueillir parce que il était quand même plus instruit que les autres. Il avait été au troisième ciel, il avait entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. Et il risquait de se vanter de sa puissance, de sa force. Alors le Seigneur y a pourvu. Il connaissait son apôtre. L'apôtre était un homme ayant les mêmes passions que nous. Et il le connaissait. Alors il lui a donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Lorsque Paul avait tendance, peut-être en lui-même, certainement même, à se dire quand même, j'ai eu des visions, j'ai eu des révélations que les autres n'ont pas eues, c'est moi qui les transmets, ces révélations. Oui, alors l'ange de Satan était là pour le souffleter, le ramener à sa mesure. L'écharpe, nous ne savons pas précisément ce qu'il en est de l'écharpe. C'était quelque chose de très gênant. Et aux yeux de l'apôtre, c'était quelque chose qui le gênait dans son service. Alors, il a réclamé trois fois qu'elle lui soit ôtée. Et nous savons la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Tu n'es pas un grand orateur, nous le voyons dans les Corinthiens. N'est-ce pas, sa parole est méprisable. Et son aspect n'imposait pas d'autorité, n'est-ce pas? Bon. Oui, mais ma grâce te suffit. Tel que tu es, ça suffit. N'est-ce pas? Ma grâce te suffit, ma puissance. Puissance du Seigneur, pas la puissance de l'apôtre. Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Et l'apôtre a été tenu dans l'infirmité pour que la puissance du Seigneur puisse s'accomplir en lui, par lui. Alors, nous voyons par exemple dans la première aux Corinthiens, quelque chose qu'il souligne. Les Corinthiens étaient des hommes qui étaient très attachés au beau discours, au beau langage. N'est-ce pas, c'était une civilisation développée qu'on admire encore maintenant, avec tort d'ailleurs, mais enfin, on l'admire. Et au chapitre 2 de la première aux Corinthiens, il peut dire, et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà ce que le Seigneur voulait, que la foi des Corinthiens repose sur la puissance de Dieu. Que ce soit un travail de l'esprit, et non pas un travail de l'apôtre. Bien sûr, l'esprit a se servi de l'apôtre, c'est certain. Mais l'apôtre disparaissait derrière la puissance du Seigneur. Et pour qu'il disparaisse, eh bien, il avait une parole méprisable, on le trouverait dans la seconde épître, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'apparence, il était là dans la crainte et le tremblement, mais la puissance de l'esprit agissait au travers de lui. Nous risquons d'admirer beaucoup trop, d'ailleurs, les hommes qui parlent bien. Et il nous faut revenir à ce que le Seigneur dit et compter sur le Seigneur et sur son esprit plutôt que sur ceux qui ont la connaissance, qui ont la capacité, mais qui peuvent aussi prendre des chemins de traverse. Le Seigneur et son esprit ne se tromperont jamais. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Les hommes, ma foi, ils marchent bien 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis hop, ils défient. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont des hommes. Nous sommes des hommes. Nous ne condamnons personne parce que nous sommes des hommes comme eux. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Et quand il arrivait à Élie, le puissant prophète, le prophète qui faisait descendre le feu sur son autel, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-il arrivé ? Eh bien, lorsqu'il a eu détruit les prêtres de Baal, il s'est enfui devant une femme. Voilà, Élie. Élie avait les mêmes passions que nous, n'est-ce pas ? Il s'est enfui devant une femme et il s'est trouvé là dans le désert, pleurant, n'est-ce pas ? Voilà, c'était Élie. Un homme comme nous. Ou plus exactement, nous sommes comme Élie. Alors, ne nous appuyons pas sur les hommes. Il ne faut pas s'appuyer sur l'homme, jamais. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, nous dit Jérémie, et qui fait de la chair son bras. Nous avons besoin de rappeler ces choses dans nos jours. Aussi, on risque d'admirer beaucoup les beaux discours. Prenons garde de ne pas nous laisser entraîner dans des chemins qui ne sont plus fondés sur la parole. Ici, le peuple s'était découragé et nous voyons le prophète aller vers le peuple, de la part de l'Éternel. L'Éternel a remarqué les propos du peuple. Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Les ennemis étaient là, ils leur avaient fait peur. Le temps n'est pas venu, ils ont trouvé un prétexte. Parce que la parole de l'Éternel vint parager le prophète, disant « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ?» Ils disaient, eux, le peuple disait ben, « Il y a les ennemis, on a peur, n'est-ce pas ? Ils sont bien plus puissants que nous. » Nous ne pouvons pas bâtir la maison de Dieu, ils vont nous attaquer. L'Éternel lui dit non, vous vous occupez de vos maisons à vous. Vos maisons lambrissées, et la mienne, vous vous en moquez. Voilà, n'est-ce pas ? Voilà ce que dit l'Éternel. Il a compris, lui, quelle était la vraie raison du découragement du peuple. À savoir que il fallait quand même s'occuper de leurs affaires à eux, celles de l'Éternel, ma foi. Le chantier était resté en route. Alors il y a une leçon à tirer pour nous, n'est-ce pas ? Parce que nous savons que la maison de l'Éternel, ici, c'était le lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire habiter son nom. Il s'était construit sur le lieu, sur le mont Morija, sur l'aire d'Ornan, jébusien, là où le feu du ciel était tombé, sur le sacrifice offert par David, après que David eut péché en dénombrant son peuple. David avait dénombré son peuple. David avait voulu savoir quelle était sa puissance à lui. Il voulait compter ses soldats, et il les a comptés. Et l'Éternel a trouvé que c'était mauvais, c'était un péché. On peut s'étonner, qu'à première lecture, l'Écriture, enfin bon, on s'étonne comment y a-t-il un péché, parce que David voulait savoir sa force. Mais oui, mais il voulait savoir sa force à lui. Et David avait remporté quantité de victoires par la puissance de l'Éternel. La force ne compte pas, le nombre des soldats dans la main de l'Éternel ne compte pas. Souvenons-nous de Gédéon. Gédéon qui se présente avec 30 000 hommes et puis l'Éternel lui évacue la plus grande partie et puis le voici parti avec 300 hommes. Et comment ont-ils remporté la victoire ? Une torche dans une cruche d'une main, une trompette dans l'autre, la cruche cassée, la torche à la main, la trompette dans l'autre. Et comment tenait-il l'épée ? Ben, il ne la tenait pas. Il n'avait pas besoin de l'épée. L'Éternel avait dit, faites ceci, ils font cela, le camp ennemi s'enfuit. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, eh bien l'ennemi est vaincu. Quand nous y mettons notre propre imagination, alors nous sommes vaincus. C'est bien simple. C'est pourquoi dans les Éphésiens, il nous dit de revêtir l'armure complète de Dieu, pas la nôtre, afin de résister aux artifices du diable. Les artifices, c'est quelque chose qui trompe, qui peut se présenter sous une belle apparence, n'est-ce pas ? Mais qui trompe. Et nous avons à résister. Il n'est même pas dit de conquérir, il est dit de résister. L'ennemi attaque par des artifices qui n'est pas la violence. C'est pas la violence. C'est pas la persécution. Le lion rugissant de Pierre, oui, c'est la persécution. mais les artifices. Les artifices, c'est quelque chose qui va avoir un bel aspect, hein, et qui va séduire le cœur, séduire l'esprit. Alors, ce sont les artifices du diable. Et si nous sommes revêtus de l'armure complète de Dieu, nous pourrons discerner les artifices et résister aux artifices du diable. Ici, ils se sont laissés justement séduire. Les voici pleins d'activité. Voyons, n'est-ce pas, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup, vous rentrez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, etc. Parce que ils étaient pleins d'activité. Une activité sans résultat. Sans résultat. Parce que le résultat que l'Éternel attendait, ben, c'est sa maison, c'est la construction de sa maison. Mais ils ont eu une activité qui ne concernait pas la maison de Dieu. Et ils pouvaient se glorifier. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Nous avons semé beaucoup. Nous allons récolter beaucoup. Nous allons pouvoir vivre dans l'abondance. Mais non, ça a été que peu. On dit, n'est-ce pas? Et celui qui travaille pour des gages, travaille pour les mettre dans une bourse trouée. C'était rien. Considérez bien vos voies. Qu'est-ce que voulait l'Éternel? Il voulait que le peuple s'occupe de sa maison à lui, l'Éternel. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Votre activité, elle ne me glorifie pas, votre activité. Et ça, voilà ce que dit l'Éternel. Et vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu. Vous l'avez apporté à la maison, j'ai soufflé dessus, c'est le terme de mépris, soufflé dessus. Il a dit, qu'est-ce que ça vaut? C'était le résultat de leur activité. Quand notre activité n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, lorsque nous ne sommes pas conduits dans un service quelconque, nous sommes des témoins, tous, n'est-ce pas? Nous pouvons être de bons témoins, nous pouvons être de moins bons témoins, nous pouvons être des mauvais témoins, mais nous sommes quand même des témoins. Seulement voilà, nous serons mesurés au tribunal de Christ, au témoignage que nous avons rendu. Bon, moyen, mauvais. Nous ne sommes pas perdus, par la des chrétiens. Les gens qui ont le salut, qui ont la vie éternelle, ils sont nés de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, eh bien il faut considérer déjà le salut qui est en Christ. J'espère qu'ici tout le monde est né de nouveau. J'espère. C'est pas seulement savoir, c'est pas seulement une question de connaissance. Il faut une rencontre avec le Seigneur, il faut un travail de Dieu dans la conscience et le cœur. Bon, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, quand on est né de nouveau, on a devant soi un chemin. On a une vie devant soi. Cette vie, eh bien, Dieu veut la faire croître. Si nous restons des bébés, si nous restons, après des années de christianisme, des gens qui ont encore besoin de lait, qu'est-ce que le Seigneur peut dire? Si nous avions dans nos familles des enfants, et hélas, ça arrive, des enfants qui restent à l'âge de 3 ans, n'est-ce pas, d'esprit, même peut-être de corps, pour rencontrer des infirmes comme cela, n'est-ce pas, qui ont un mental de 3 ans et puis ça n'a plus bougé. J'en ai rencontré, moi, 2 dans la même famille, d'ailleurs, qui atteignaient la 50aine, ils jouaient avec des cubes, n'est-ce pas, ou bien ils poussaient des petites voitures, et tout ce qu'ils étaient capables de faire. Mais la mère, bien sûr, était attristée, considérablement attristée, que ses enfants soient dans cet état. Et combien d'enfants de Dieu sont dans cet état, si nous n'y prenons garde, restant à l'état de bébé, alors que l'apôtre pouvait dire aux Hébreux, ben vous devriez être des docteurs vu le temps. Et la plupart d'entre nous ici, nous devrions être des docteurs vu le temps. Eh bien, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Alors, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas si le nouveau-né en Christ ne se développe pas. Comment se développera-t-il? Par l'Écriture. La parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme, il faudra que ce nouveau-né se nourrisse, qu'il prenne sa nourriture dans la parole de Dieu. S'il ne fait pas, eh bien voilà, des bébés. Mais ici, justement, ce peuple que l'Éternel avait ramené dans le pays qu'il lui avait promis, voilà que ce peuple s'occupait de ses intérêts et non pas de ceux du Seigneur. Une belle apparence, beaucoup d'activité. Dans la chrétienté, il y a beaucoup d'activité aussi. Ici et là, partout, et même parmi nous, beaucoup d'activités. Est-ce qu'on s'occupe de la maison de Dieu? La maison de Dieu, n'est-ce pas, en esprit, qui remplace la maison donc en pierre du peuple terrestre, cette maison de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu demeure. cette maison de Dieu qui est composée des pierres vivantes, comme l'apôtre Pierre en parle, autour de la pierre d'angle, n'est-ce pas? Comme des pierres vivantes, vous êtes approchés. Cette maison de Dieu qui est édifiée par le Seigneur, et fondée sur Christ, le Fils du Dieu vivant, sur ce roc que je bâtirai mon assemblée. Il y a les deux côtés. Il y a ce que Dieu fait, qui est définitif et éternel. Lui, il bâtit son assemblée. Et voilà qu'il nous donne le privilège de pouvoir participer à cette construction. L'apôtre Paul pouvait dire, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Maintenant que chacun considère comment il édifie dessus. On peut édifier de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, les choses qui concernent de Dieu, n'est-ce pas? L'or qui parle de la pureté de Dieu, de la sainteté de Dieu. L'argent qui parle de rédemption, les pierres précieuses, la gloire du Seigneur, ce qui était sur le pectoral, sur les épaules du sacrificateur. On peut aussi bâtir avec du bois, du foin, du chaume. Des choses qui peuvent avoir grande apparence. Dans le temps, quand on parlait d'une chaumière, c'était une maison très pauvre, couverte avec du chaume. C'était des gens pauvres qui y étaient. Maintenant, aller en Normandie voir les chaumières qui s'y trouvent, vous verrez que ce ne sont pas des gens pauvres du tout. Pas du tout. Non. Enfin, on bâtit de grandes choses avec du chaume. Oui. Du bois, du foin, du chaume. Oui. Mais une allumette dedans, bien sûr, ça disparaît. Aussi bien, il y aura un jugement par le feu. Ce sera le tribunal de Christ, d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui aura bâti avec ce matériau qui ne vaut rien, il sera sauvé, nous dit l'Écriture. Je pense que nous connaissons tous ces versets, n'est-ce pas? Il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que quand une maison brûle, on tire celui qui est dedans, on le tire par la fenêtre et puis on le met dehors. Et puis, tout le reste brûle. Il a peut-être amassé toute sa vie des richesses considérables dans sa maison. Hop, tout est disparu. Sauvé comme au travers du feu. Sauvé. C'est la grâce de Dieu, sauvé. C'est cela qui fait la différence. Sauvé. Celui qui a cru au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Donc, il est sauvé. Maintenant, la bâtisse, ça concerne la marche. Ça concerne la communion avec le Seigneur. Si nous marchons dans la communion avec le Seigneur, constamment redressant notre chemin, constamment confessant tous les manquements qui sont les nôtres, alors nous bâtirons avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Nous serons occupés du Seigneur. Si au contraire nous nous occupons de nous-mêmes, des grandes activités que nous pouvons avoir, de la gloire que nous pouvons tirer de ces activités-là, alors nous ne bâtissons plus pour le Seigneur. Nous bâtissons pour nous-mêmes. L'apôtre pouvait reprocher aux Corinthiens, il disait, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Christ est-il divisé? Paul a-t-il donné sa vie pour vous? Voilà. C'était des hommes qui ne tiraient pas les disciples après eux. Mais ce sont les disciples qui, eux, se mettaient un chef devant. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Toute la chrétienté a fait cela. Se sont mis des chefs devant. Nous devons prendre garde, nous, et ne pas nous mettre des chefs devant. Il y en a un chef, c'est Christ. Et nous sommes liés à lui par le Saint-Esprit. Et nous pouvons suivre son chemin par l'Esprit et par sa parole. Il nous parle quand nous ouvrons l'Écriture. À qui parle-t-elle? Moi, j'ouvre l'Écriture, elle me parle à moi. C'est Dieu qui me parle. Il m'est arrivé, bien sûr. Je suis pas meilleur que les autres. Il m'est arrivé de penser qu'elle parlait pour le voisin. Je pense que ça nous arrive, hein, à chacun. Et c'est pourtant pas ce que veut le Seigneur. Il ne veut pas que nous prenions l'écriture pour le voisin, il veut que je prenne l'écriture pour moi. Peut-être qu'il sera nécessaire quelquefois de ne pas laisser son frère dans un mauvais chemin. Peut-être qu'il sera nécessaire de vous exhorter l'un l'autre, bien sûr à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est certain. Mais la parole de Dieu, quand nous l'ouvrons chacun de nous, elle parle à chacun de nous d'abord. Ensuite, le Seigneur nous conduira dans le chemin qui convient. Mais ici, Israël s'était occupé de ses propres intérêts. Alors que dit le Seigneur ? Au verset 8, « Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Ce qui glorifie le Seigneur, c'est de bâtir, que nous soyons occupés de bâtir sa maison. Et sa maison, c'est une maison spirituelle, bien entendu. L'apôtre pouvait donner comme conseil à Timothée, n'est-ce pas, comment il fallait se conduire dans la maison de Dieu, colonne et soutien de la vérité. Eh bien, nous avons ces conseils-là. Nous avons les exhortations de l'apôtre. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans l'Écriture pour que nous sachions comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Nous l'avons. Nous avons dans l'Écriture tout ce qu'il faut pour savoir ajouter des pierres à cette maison. Savoir des pierres vivantes. Des gens qui sont passés par la nouvelle naissance. les gens qui ont saisi l'évangile du salut, la parole de la vérité. Pas tous les enfants de Dieu qui ont saisi cette parole de vérité, cet évangile du salut. Nous rencontrons autour de nous bien des âmes qu'on peut tenir pour des enfants de Dieu, des croyants donc, au Seigneur Jésus, mais qui, étant donné l'enseignement qu'ils reçoivent, ne peuvent pas vous dire « Oui, je suis sauvé ». Je pose la question souvent, n'est-ce pas ? Bon, est-ce que vous êtes sûr, certain de votre salut ? Posez-la dans votre voisinage et vous verrez les réponses. Oui, il me semble bien, peut-être. Ou bien, oui, mais si je pêche après, alors, n'est-ce pas ? Et celui qui m'a dit ça, hein, c'était un personnage important dans un milieu, un mouvement qui nous entoure. Bah, le salut inconditionnel, moi, j'y crois pas. Mais le pauvre homme, s'il y a une condition, il est perdu. Si on nous met une seule condition à nous pour être sauvés, nous sommes perdus. Dieu ne met pas de condition, il donne la foi, c'est un don de Dieu. Il donne la foi en celui qui a accompli le salut du Christ. Il est fondé sur lui. Maintenant, nous avons à entretenir cette communion avec le Seigneur. Alors, entretenant cette communion avec le Seigneur, nous bâtirons la maison. Bâtirons la maison parce que nous comprendrons la pensée de Dieu. Et lorsque nous parlerons de lui autour de nous, peut-être quelques résultats sera produit par la parole que nous apporterons. Alors peut-être nous discernerons l'âme qu'il faudra amener justement au lieu du rassemblement. Nous discernerons s'il est scellé d'esprit, s'il a saisi cette parole de vérité, cet évangile du salut. Si un homme reste dans l'incertitude quant à l'avenir, s'il croit encore qu'il peut être condamné pour ses péchés, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, pour que ce soit une bonne nouvelle, il faut que je sache que je suis pardonné complètement. Il dira, oui, mais on pêche. Bien sûr, on pêche. Mais Dieu y a pourvu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Remarquons, ce n'est pas le bon Dieu. Ce n'est même pas le Dieu de grâce dont il est question là. Il est question du Dieu fidèle et juste. Fidèle et juste envers nous. Nous n'avons rien à réclamer. Nous ne méritons rien. Mais fidèle et juste à l'égard de Jésus. Fidèle parce que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Juste parce que sa justice, la justice de Dieu a été satisfaite par le sacrifice du Seigneur. Donc, lorsque quelqu'un vient dans la repentance de son cœur dire « Voilà, j'ai péché », eh bien, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Le Fils est mort, n'oublions pas. Certes, il est ressuscité, mais il est mort d'abord. Souvenons-nous de l'histoire de David avec Bathsheba. Bon, il a fallu un travail de Dieu pour arriver à ouvrir les yeux de David, pour qu'il puisse dire, pour qu'il puisse comprendre qu'il était un adultère et un criminel. Quand il l'a compris, il a dit « J'ai péché ». Que dit l'Éternel ? Bon. L'Éternel a fait passer ton péché de dessus toi. Mais le fils meurt. Le fils qu'il a eu avec Bathsheba meurt. Il fallait la mort du fils. Il n'y a rien à faire, il faut une mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est toujours la mort. Mais pour nous, le fils est mort. Jésus est mort. Cela nous montre un peu la gravité du péché. La gravité du petit péché même. Nous n'avons pas tous péché, heureusement, dans le sens où David a péché. Adultère et meurtre. Mais ne disons pas que nous sommes sans péché, n'est-ce pas ? Alors, le petit péché, le mensonge comme ça, pour essayer de se défiler, de rejeter une responsabilité, n'est-ce pas ? Ou bien ou les tromperies dans le travail, dans le commerce, etc., n'est-ce pas ? Ce sont des péchés, et qui peuvent s'accumuler, et qui peuvent boucher le chemin de communion avec le Seigneur. Ne gardons pas ce péché. Confessons-les au Seigneur. Il est fidèle et juste. Peut-être même faudra-t-il les confesser à un frère. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est une excellente chose, vous savez. On dénonce dans le catholicisme la confession auriculaire, quoi, la confession à l'oreille du prêtre. C'est pas une si mauvaise chose. C'est la seule chose peut-être qui soit selon l'Écriture dans le catholicisme. Alors, confessons nos péchés les uns aux autres et prions les uns pour les autres. Évidemment, faut trouver un frère. La crainte qu'il y a parmi nous, n'est-ce pas, c'est que quand on confesse un péché, bon, ça fait tout de suite le tour de la chrétienté. Ça, c'est une plaie. Et nous devons veiller à ne pas transporter que nous avons pu entendre. C'est important. C'est important parce que nous gagnons, si nous ne sommes pas bavards sur les autres, eh bien nous gagnerons la confiance des frères qui auraient besoin d'être écoutés et puis qui peut-être ne trouvent personne pour parler. Prenons garde à cela. Ici, je reviens à cette bâtisse de la maison. Enfin, le Seigneur est glorifié lorsque nous nous occupons de sa maison. En fait, ce que le Seigneur demande ici à Israël, c'est de s'occuper d'abord de sa maison. Et à nous aussi, il nous le demande, puisque nous pouvons aisément, je suppose, faire le parallèle entre la maison de Pierre d'Israël et la maison spirituelle que le Seigneur construit actuellement et dont nous sommes aussi les pierres vivantes et dont nous sommes aussi bâtisseurs avec Paul, coopérant avec Paul. Nous voyons au verset 12 maintenant que Zorobabel et Joshua ont entendu, ils écoutèrent la voix de l'Éternel. Voilà des hommes qui étaient prêts à travailler. Ils avaient besoin d'être réveillés, tout simplement. Nous avons souvent besoin d'être réveillés, nous aussi. Nous serons réveillés lorsque nous écouterons la parole de Dieu. Dieu nous parle, nous dit voilà, voilà le chemin, marche-y. Si nous résistons, alors nous ne serons plus réveillés, nous tomberons dans le sommeil, et quelquefois dans un sommeil tel que nous risquons de terminer notre vie dans le sommeil. Et quand nous nous présenterons au tribunal de Christ, alors, qu'y aura-t-il? Que verrons-nous? Les lits nous connaîtront comme nous avons été connus. Nous verrons notre vie au tribunal de Christ. Qu'est-ce que nous verrons de notre vie? Est-ce que nous recevrons un mot d'encouragement de la part du Seigneur, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la voie de ton maître, ou bien est-ce qu'il sera obligé de nous désapprouver, disant voilà, regarde ce que tu as été. Oh, certes, nous serons d'accord avec lui, car nous serons déjà transformés à son image. Alors nous serons d'accord avec lui. Mais il faudra que toutes choses soient mises au clair, parce que nous entrerons dans le ciel en pleine communion avec lui. Et la communion, c'est d'être d'accord avec le Seigneur. Et si je prends un chemin qu'il n'approuve pas, je reconnais que ce chemin est un chemin mauvais, bon ben j'ai communion avec le Seigneur. C'est pas plus difficile que ça, la communion, c'est pas sans un sentiment, comment dirais-je, une sorte de vision qu'on peut avoir à l'intérieur, n'est-ce pas, quelque chose que l'on ressent. Non, c'est tout simplement l'obéissance. Tout simplement l'obéissance dans le chemin que le Seigneur nous montre. C'est très simple, l'obéissance. C'est très simple. Le vieil homme n'aime pas, la chair n'aime pas. Mais le nouvel homme, lui, c'est son chemin, tout simplement. Je reviens donc à cette maison et Agée, le messager, parle au peuple. Et l'Éternel dit au verset 13, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, tant il est vrai que s'il y a un réveil quelque part, que c'est toujours le Seigneur qui agit. Ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, dans la seconde année du roi Darius. Donc, la construction reprend. La suite, je lis la suite aussi parce qu'il y a des choses fort intéressantes pour nous dans ce qui suit. Au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agée le prophète, disant, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jostadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant, qui est de reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? La première gloire, c'était la gloire du temps de Salomon. La maison splendide. La maison recouverte d'or, tout d'or à l'intérieur. La maison aux pierres magnifiques. C'est la maison qui, lorsqu'elle a été inaugurée, a été remplie de la nuée. La nuée remplissait la maison de telle sorte que les sacrificateurs même n'y pouvaient pas entrer pour faire le service. La nuée, c'était la présence de Dieu. Elle remplissait la maison. Il est vrai que le peuple était là tout autour de son roi. Un seul cœur tout autour de son roi, comme un seul homme autour de son roi. Alors la maison, la gloire de Dieu, remplissait la maison. Lorsque Salomon va offrir un sacrifice devant la maison, sur l'autel des reins, le feu du ciel tombe. C'était la preuve que cette maison était approuvée de Dieu. C'est ma maison, l'Éternel. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. C'est le seul lieu sur la terre dont l'Éternel a dit « Mes yeux et mon cœur seront toujours là ». Maintenant, l'Assemblée, le Seigneur porte l'Assemblée dans son cœur. L'Assemblée est céleste, elle n'est pas terrestre. Certes, il y a un lieu, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il a donné un rendez-vous, comme l'Éternel avait donné un rendez-vous sur le lieu que l'Éternel choisira. C'est là qu'il fallait venir. Eh bien, nous avons aussi un rendez-vous avec le Seigneur. Deux ou trois assemblés à son nom. Deux ou trois assemblés à son nom, je suis là au milieu d'eux. Assemblés à son nom. Il y a, littéralement, il y a même une note dans notre traduction, il y a un mouvement vers le Seigneur à son nom. La traduction française, c'est en son nom. C'est pas précisément ça, c'est à son nom. Il y a un mouvement. Nous nous déplaçons pour aller vers le Seigneur. Nous nous déplaçons à plusieurs, à différents lieux, et nous voici ensemble autour du Seigneur, et le Seigneur a promis sa présence là. Solennel peut être réuni au nom du Seigneur. Et c'est le nom. Et le nom, nous le savons dans l'Écriture, recouvre toute la personne. Le Seigneur, c'est pas seulement l'homme qui a marché de lieu en lieu faisant le bien. C'est l'homme qui s'est offert lui-même pour le pécheur, pour la gloire de Dieu. C'est l'homme qui était l'holocauste parfait, qui montait en odeur agréable à Dieu. Et c'est l'homme qui était aussi le sacrifice pour le péché. C'est l'homme qui a été aussi le sacrifice de prospérité qu'en Israël, le croyant mangeait avec son Dieu. Oui. Jésus, Dieu sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Il fallait d'abord qu'il soit Dieu sauveur avant d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu ne pouvait pas demeurer avec les hommes pécheurs. Il faut d'abord que le péché soit réglé, la question du péché réglée. Alors Emmanuel, Dieu avec nous. Se réunir à son nom, c'est penser à cela. C'est venir vers celui qui est cela. Dieu sauveur et Dieu avec nous. C'est cela, se réunir à son nom. C'est pas une habitude que l'on prend. On vient autour d'une table où il y a un morceau de pain et où il y a une coupe. C'est pas une habitude que l'on prend, qu'on a pris dans la jeunesse ou qu'on a suivi les pères. C'est quelque chose qui personnellement nous attache au Seigneur. Nous sommes venus là pour lui. Ne serions-nous que deux ou trois. On ne vient pas là pour les frères. On ne vient pas là parce que les frères sont agréables ou aimables. Et le jour où ils sont plus aimables, alors, qu'est-ce qu'on fera? Non, nous venons là pour le Seigneur, que les frères soient ce qu'ils sont. Nous venons là pour le Seigneur. Et il a promis sa présence à ceux-là qui viennent pour lui. Comme ici, l'Éternel réclamait qu'on s'occupe de sa maison, d'abord, de lui d'abord. Ensuite, vous ferez vos affaires, et de lui d'abord. Et de nous aussi. Nous devons porter nos cœurs vers le Seigneur d'abord. Et nous aurons, nous réjouirons d'être là autour de lui. Il y a dans le psaume 137 des expressions remarquables à cet égard. Psaume 137, il s'agit de déporter à Babylone. Et nous trouvons, auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au saule qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes, car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous les cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Voilà l'affection de ce peuple, ou tout au moins des croyants parmi ce peuple, des fidèles parmi ce peuple, car dans un peuple incrédule comme celui-là, il y avait quand même des fidèles. Dans une chrétienté qui va vers l'apostasie, il y a quand même des fidèles. Il y a des fidèles partout, n'est-ce pas? Et voici, ils se souvenaient du lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire habiter son nom. Et que ma langue s'attache à mon palais si je me souviens de toi, Jérusalem. Si je mets Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Aussi, nous trouvons dans un psaume précédent, le psaume 122, nous trouvons une expression aussi qu'il nous faut souligner. C'est un homme de ce résidu qui entend dire que Jérusalem a été délivrée de l'Assyrien qui occupait le pays. Et nous voyons, verset 1er, psaume 122, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison d'Éternel, nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison d'Éternel. Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous venons à la réunion où le Seigneur se trouve? Est-ce que nos cœurs se réjouissent? Est-ce que c'est pour nous un plaisir de venir là pour le Seigneur et venir là avec les frères? Bien sûr, on ne se réunit pas tout seul. Il faut bien être au moins deux pour être assemblés, hein, et bien être là. être réjoui dans son cœur parce que nous sommes là avec les frères autour du Seigneur. Et c'est la maison de Dieu. C'est là la maison de Dieu. Comment l'assemblée, le Seigneur va-t-il se présenter l'assemblée? Quand il viendra sur la nue, tous les siens seront enlevés à sa rencontre. Et étant transformés, transmués avec des corps glorieux, des corps célestes, nous serons toujours avec le Seigneur, nous dit l'apôtre. C'est son église, c'est son assemblée, sa maison. Nous serons toujours avec le Seigneur, ensemble, avec le Seigneur. Il n'est pas dit que nous consolez-vous l'un l'autre parce que vous reverrez, vous verrez ceux qui vous sont morts, vos chers, vos êtres chers, etc. L'apôtre ne dit pas ça. L'apôtre dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles, les paroles d'être toujours avec le Seigneur. Sans doute nous nous reverrons, peut-être, je ne sais pas, s'il y a vraiment des textes qui nous disent que nous retrouverons nos parents, nos enfants, etc. N'est-ce pas ? Mais il y a un texte formel alors qui dit, nous serons avec le Seigneur, et toujours avec le Seigneur. Et c'est là le bonheur, être avec le Seigneur. Nous pouvons déjà goûter le bonheur maintenant lorsque nous nous rassemblons autour du Seigneur. Et alors ici, il y avait la première gloire de la maison au chapitre 2. Et puis, voici qu'ils construisaient maintenant une maison. Ils avaient l'ordre de Cyrus, bien sûr. Cyrus n'était pas l'Éternel, bien entendu. C'était un roi étranger, un roi des nations. Et le peuple était soumis à ce roi à cause de son péché. C'était en quelque sorte le rappel constant du péché du peuple. Avoir au-dessus d'eux, avoir comme quelqu'un qui domine sur eux, un roi des nations. C'était le pire qui pouvait arriver à Israël. Mais c'était son péché qui l'avait mené là. C'était son idolâtrie qui l'avait mené à Babylone. Eh bien, voilà, la première gloire était partie. On voit cette gloire s'en aller dans Zacharie, dans Ézéchiel, vers le chapitre 9. Lorsque le Chaldéen entoure la maison, il va détruire la ville, il va détruire la maison de Dieu. La gloire s'élève au-dessus du seuil de la maison, s'élève d'entre les chérubins, et la gloire s'élève. Elle plane au-dessus de la ville un temps, et puis elle s'en va vers l'Orient. C'est de l'Orient que viendra le Seigneur. Elle s'en va. La gloire s'en est allée. Elle n'est pas revenue dans la maison que construisait Zorobabel. Elle n'est pas revenue. Le pays était occupé par l'ennemi, les murailles étaient détruites, la ville était écrasée. Alors, Dieu n'habite pas un pays, n'habite pas avec un peuple qui est ainsi marqué par son infidélité. La gloire n'est pas revenue. Et pourtant, l'Éternel dit, c'est ma maison. C'est pourtant ma maison. C'est la même que celle de Salomon. Elle n'a pas la même forme, elle n'a plus de gloire. Mais l'Éternel la considère comme ma maison, n'est-ce pas? Et on voit au verset 3, « Qui est de reste parmi vous qui ait vu cette maison de sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel. Sois fort, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Soyez fort, vous tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je suis avec vous. C'est une pauvre maison. C'est dans une ville détruite. Les murailles sont écroulées, mais je suis avec vous. » Et qu'est-ce qu'il rappelle au verset 5 ? La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. La parole et l'esprit. La parole qui était avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte, le commencement de la pérégrination du peuple juif. Eh bien, ce qui était au commencement est toujours d'actualité. Je suis avec vous. Ce que nous avons vu au commencement, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vérité. On l'a vu. Le Seigneur, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu, la parole de la vérité. Et nous l'avons, nous aussi, dans l'Écriture. Nous l'avons, nous ne voyons plus, nous ne touchons plus avec les mains, bien sûr, mais nous le voyons dans l'Écriture. Nous le voyons dans les évangiles, dans son humiliation, aller de lieu en lieu, faisant le bien. Nous le voyons dans son élévation. Dieu l'a haut élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie des êtres célestes et terrestres et infernaux, n'est-ce pas, et que Jésus soit au-dessus de tout, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons Jésus. Considérons Jésus. Il est avec nous. Même si nous sommes dans la ruine, si l'assemblée de Dieu qui aurait dû manifester son unité et dispersé comme le peuple l'était à Babylone, comme on voit dans Jérémie au chapitre 4, comment les pierres du lieu saint, il y a un verset dans Jérémie, au chapitre 4, non, c'est les lamentations de Jérémie, chapitre 4, comment l'or est-il devenu obscur et leur fin a-t-il été changé? Comment les pierres du lieu saint sont-elles répandues au coin de toutes les rues? Fils de Sion, si précieux, estimé à l'égal de leur fin, comment sont-ils réputés des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier? Les pierres du lieu saint répandues au coin de toutes les rues. Voilà ce qui était arrivé à la maison de Dieu. Et le peuple lui-même était dispersé à Babylone, qui signifie confusion. C'était la ruine, comprenons bien là. Eh bien, pour l'assemblée de Dieu en tant que témoignage, comment ne pas dire que c'est la ruine? Certes, il y a toujours ce que le Seigneur a fait. Et les promesses faites à Israël seront réalisées. Parce que le Seigneur, lui, n'est pas un homme pour se repentir. Et même au travers de cette ruine, l'œil de Dieu est posé sur son peuple. Même s'il a pu dire, Lo ami, plus mon peuple de ça, Lo rutama, plus bien aimé. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Et il agit en conséquence. Et pourtant, il a son œil sur eux. Et dans un jour prochain, il va rassembler ce peuple, ramener à Jérusalem, à nouveau la maison de Dieu sera construite, oui. Bon, Dieu, de son côté, Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Ce que sa bouche a dit, dit un cantique, son bras l'accomplira. Ça, c'est certain. Mais en tant que témoignage, à ce moment-là, où voyait-on Israël, peuple de Dieu? Comment pouvait-on discerner Israël? 50 000 hommes au milieu d'un monde ennemi? Pas discerner, c'était la ruine. La ville détruite, la maison de Dieu détruite, c'est la ruine. Au début que je venais avec les frères, c'est une expression qui me surprenait toujours. Je me dis, mais ils parlent de la ruine. De quoi veulent-ils parler en parlant de la ruine de l'église, la ruine de l'assemblée? Il a fallu, interroger un peu plus l'écriture pour comprendre qu'il y avait de la part du Seigneur un témoignage à rendre, un témoignage collectif à rendre. Ce témoignage n'est plus rendu, ce témoignage est dispersé, et alors maintenant c'est la ruine. Et au milieu de la ruine, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Au milieu de la ruine, le Seigneur a encore ses yeux fixés sur les siens. Et au milieu de la ruine, eh bien, il veut comme ici les rassembler. Il veut quand même que le travail de sa maison continue. Et ici, nous avons l'exemple du Seigneur, de l'Éternel, qui veut que le travail de sa maison continue. C'est une pauvre maison. Elle n'a pas la richesse de celle de Salomon, mais néanmoins, travaillez, car je suis avec vous. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas. L'Éternel revient au commencement de ce qui était. Et maintenant, on veut nous pousser en avant. Il faut nous souvenir de ce qui était au commencement. Il faut nous souvenir de l'enseignement qu'on a reçu au commencement. Il faut même nous souvenir de l'enseignement qu'on a reçu au commencement de la restauration, en quelque sorte, d'un témoignage. Il faut nous en souvenir. On voudrait mettre de côté ces écrits des frères du siècle passé parce que, bon, ils ont vieilli quant au langage, ils ont vieilli quant à la présentation. Oui, mais alors qu'on les remplacera par quoi? D'autres écrits plus modernes, avec des idées plus modernes. Est-ce que Dieu vieillit? Est-ce que la parole de Dieu vieillit? Ce qui était de ce jour-là, nous pouvons le lire en comprenant que c'est pour nous. Ça date de combien de siècles en arrière? Alors nous devons maintenir. Il s'agit toujours de maintenir. Il s'agit de tenir ferme. À Philadelphie, le Seigneur lui dit, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est un avertissement solennel. Quelqu'un peut prendre notre couronne parce que nous baisserons les bras. Nous serons découragés comme Israël l'était à ce moment-là. Nous avons eu des prophètes qui nous ont encouragés. Nous avons eu la parole, nous avons eu des hommes qui ont découpé droit à la parole. C'est scripturaire, cela. C'est écrit dans Timothée, ceux qui découpent droit à la parole. Ça, nous en avons eu. Nous en avons qui ont écrit. C'est scripturaire, cela. Le Seigneur a donné des dons aux hommes pour l'édification du corps. C'est dans les Éphésiens. C'est scripturaire. Nous devons prendre garde à cela et retenir ce que le Seigneur a donné. On entend dire quelquefois, je l'ai entendu dire plus d'une fois même, oh, moi j'ai l'écriture, ça me suffit, j'ai pas besoin des écrits des frères, j'ai pas besoin de l'enseignement. Non, moi j'ai l'écriture, je lis l'écriture et ça me suffit. Oui. Je suis persuadé que Dieu a écrit l'écriture pour qu'on la comprenne. Bien entendu. Si un père écrit à son fils, il va écrire de façon à être compris, c'est certain. Et si j'étais tout seul dans une île déserte et que j'ai l'écriture, Dieu éclairerait bien sûr mon esprit pour la comprendre. Mais nous ne sommes pas sur une île déserte. Nous ne sommes même pas dans un pays, nous ne sommes même pas tout seuls dans un pays opposé comme on peut l'être dans l'islam. Alors Dieu a donné, le Seigneur a donné des services différents dans le corps et un corps a besoin de tous ses membres pour pouvoir vivre normalement. Quand il en manque un, ça manque. Il faut tous les membres. Alors, si les services sont là, il faut les employer. Il faut, si c'est des docteurs, si c'est des évangélistes, si c'est des pasteurs, mais laissons-les employer leurs dons pour notre bienfait. Soyons attentifs à cela. Et il les a donnés, il nous a donné des frères qui ont écrit, qui ont éclairé l'écriture pour nous. Moi, j'ai pas été enseigné dans l'Assemblée, bon, mais quand j'ai découvert McIntosh pour m'expliquer le Lévitique, qui aurait pu me l'expliquer à part McIntosh? Lisez McIntosh tout seul, vous comprenez rien. Mais le Seigneur, lui, a donné les hommes qu'il fallait pour cela. Alors nous devons retenir ces choses, n'est-ce pas? Oui. Nous voyons ici, donc, l'Éternel revenir à ce qui était dès le commencement. Ils ont un verset dans Jérémie, au chapitre 6, verset 16. Il s'adresse à Israël, bien sûr, qui ne veut pas, lui non plus, écouter les avertissements. Verset 16, « Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous touchant les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Enquérez-vous touchant les sentiers anciens. Et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Eh bien oui, enquérons-nous touchant les sentiers anciens. Nous avons eu des devanciers. C'est pas à nous directement que le Seigneur a révélé ce qui était disparu, pas disparu précisément, mais que dire, qui était resté voilé dans l'écriture parce qu'on avait négligé l'écriture au cours des siècles, n'est-ce pas? Même les réformateurs n'ont pas reconnu ce qu'il en était de l'Assemblée de Dieu. Des grands hommes de Dieu qui ont précédé, qui ont, au cours des siècles, ont été suscités, et n'ont pas discerné ce que le Seigneur voulait pour son Assemblée. Bon, il l'a révélé à des frères qui ont vécu il y a 150 ans. Recevons la révélation, recevons l'enseignement. C'est pas une révélation au sens habituel, quelque chose qui n'existait pas. C'est une redécouverte, on peut dire, dans l'écriture, de ce que les seigneurs voulaient, ils ont redécouvert. Le Seigneur les a aidés. C'était pas leur intelligence. Il aura trouvé ça, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui les a aidés. Bon, il les a conduits à s'attacher à sa parole, et dans sa parole, ils ont donc redécouvert ce qui avait été négligé auparavant. Mais servons-nous de ce qu'ils ont écrit? Servons-nous de l'enseignement qu'ils nous ont donné? Et ce sont les sentiers anciens, et si nous y marchons, nous aurons l'âme en paix. Ce sera la paix pour votre âme. Nous retournons donc en arrière, et puis il y a une prophétie qui vient en avant. Au verset 7 de ce chapitre 2, « L'objet du désir de toutes les nations viendra, je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. » Nous trouvons l'expression « cette maison ». Cette maison-là, cette maison si pauvre que les uns, en la voyant, pleuraient parce qu'ils se souvenaient de la première gloire, et que les autres se réjouissaient parce qu'il y avait un nouveau témoignage, n'est-ce pas? C'est ce qu'on trouve dans Esdras, lorsque les fondements étaient posés. Eh bien, je la remplirai de gloire quand le Seigneur viendra dans la maison construite à Jérusalem. La gloire reviendra. En attendant, la gloire n'est plus là. Il en est de l'Église, il en est la même chose de l'Église. Où voyons-nous la gloire de l'Église dans les premiers chapitres des Actes? Lorsqu'ils étaient un cœur et une âme. Alors l'Esprit agissait avec puissance. Et il est dit que les apôtres rendaient avec puissance le témoignage. Et nous voyons l'Esprit agir puissamment, n'est-ce pas? Amener des âmes, convertir 5000 âmes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, en un même lieu. Un cœur et une âme. Ça, c'est l'Esprit. Parce que de nos jours, est-ce qu'on trouverait 5000 croyants dans une ville d'un million d'habitants comme l'était Jérusalem au jour de fête? Je pense qu'on trouverait 5000 croyants, parce que l'Évangile continue son chemin. L'Évangile n'est pas limité. Et bon, si la parole est répandue, Nouveau Testament, traité, etc., bon, on trouvera bien 5000 hommes. Est-ce qu'on trouvera 5000 croyants, un cœur et une âme dans un même lieu. Alors là, ça c'est autre chose. Ça c'est plus difficile. 5000 croyants, un cœur et une âme. Eh bien non, on ne les trouve pas. Prenez une ville comme Lyon, une ville comme Marseille, 5000 croyants, vous les trouverez. 5000 croyants en un même lieu, un cœur et une âme, c'est-à-dire marchant ensemble, dans la même pensée, dans la même communion, on ne les trouve pas. Vous trouverez un petit groupe là, un autre petit groupe ailleurs, un autre, des églises remplies qui sont aussi remplies d'idoles, n'est-ce pas? Vous trouverez ici quelques croyants, ici quelques autres, n'est-ce pas? C'est ce que dit Jérémie, les pierres du lieu saint sont dispersées dans tous les carrefours. Alors, il faut revenir à ce que le Seigneur voulait. Il faut reconstruire, c'est dans cet état de ruine qui peut se trouver le peuple d'Israël et Jérusalem, et c'est là que l'Éternel leur envoie Agé pour les réveiller et pour les encourager à construire. Il y a à propos de la construction dans Zacharie, le prophète suivant, quelque chose d'intéressant à souligner. Au chapitre 4, parce que souvenons-nous, Zacharie a été envoyé avec Agé vers le peuple. Verset 6. C'est ici la parole de l'Éternel, chapitre 4, hein, verset 6. C'est ici la montagne. La montagne, c'est un obstacle. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, sors-toi de là, jette-toi dans la mer, elle le ferait. C'est un obstacle. Il y avait devant Zorobabel un obstacle. Les ennemis qui les menaçaient dans leur existence, dans leur vie. Qui es-tu, grande montagne? Tu deviendras une plaine. Et Zorobabel, n'est-ce pas? Et Zorobabel fera sortir la pierre du fait avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. C'était l'assurance pour Zorobabel de pouvoir terminer la maison, malgré les ennemis. Et puis alors, un peu plus loin, au verset 8, « Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses ?» Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Qui a méprisé le jour des petites choses? Les hommes. Les hommes méprisent les petites choses. Les hommes méprisent les petites maisons. On admire, bien sûr, on admire les pyramides, on admire le Parthénon, on admire les jardins suspendus de Sémiramis, mais les petites choses, les petites choses ordinaires, on méprise, n'est-ce pas? Alors, qui a méprisé le jour des petites choses? Pas l'Éternel. L'Éternel leur a dit, travaillez, c'est ma maison, travaillez. Mais en plus, ils se réjouiront, ces sept-là. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Or, les yeux de l'Éternel parcourant toute la terre, il n'y a qu'un seul lieu où ils se réjouissent. Et c'est à Jérusalem, la ville choisie par l'Éternel. Et dans ce lieu-là, il y a un homme qui a le plomb dans la main. Et je souligne que l'Écriture met l'accent sur le plomb, le fil à plomb. Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Il n'est pas dit, ils verront Zorobabel construire. Il est dit, ils verront le plomb dans la main de Zorobabel. Zorobabel construisait pas n'importe comment. Zorobabel ne construisait pas selon son imagination. Il avait le fil à plomb dans la main. Fil à plomb, nous l'avons, c'est l'Écriture. Il faut construire avec le fil à plomb, avec l'Écriture. Sinon, le Seigneur ne se réjouit pas de voir des gens rassemblés, même une foule, même des multitudes, si ce n'est pas avec le plomb, si ce n'est pas selon l'Écriture. C'est le plomb dans la main de Zorobabel. Et regardons bien, n'est-ce pas, c'est ce que souligne l'Écriture. Zorobabel était en train de construire, mais pas n'importe comment, avec le plomb. Eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, à construire avec le plomb, c'est-à-dire avec l'Écriture qui est ce qui peut nous diriger dans le vrai chemin pour bâtir. C'est notre responsabilité. Le Seigneur achèvera ce qui a commencé. Mais c'est notre responsabilité si nous voulons que les yeux de l'Éternel se réjouissent, si nous voulons que le cœur du Seigneur se réjouisse en considérant les siens assemblés à son nom. Eh bien, si nous voulons qu'ils se réjouissent, il faut qu'ils soient assemblés à son nom avec le plomb dans la main, c'est-à-dire avec l'Écriture dans la main. Pas seulement une habitude, pas seulement une tradition. Plongeons souvent dans les traditions, n'est-ce pas? Nous risquons d'être submergés par la tradition, mais un désir personnel, une perception personnelle de ce que le Seigneur désire, et que nous marchions selon sa pensée, selon sa volonté, avec l'Écriture, de sorte qu'il puisse se réjouir. C'est ce à quoi nous sommes appelés, réjouir le cœur du Seigneur. Il nous réjouit, nous. Il nous donne, il nous ouvre le ciel, la maison du Père. Est-ce que nous ne pourrions pas, nous aussi, le réjouir en construisant sa maison avec le plan, en étant aussi attentifs à séparer de ce qui est pur et ce qui est impur? Il nous faut quand même lire quelques versets encore plus loin, n'est-ce pas? Verset 11 du chapitre 2 d'Agée. Ainsi dit l'Éternel des armées, interroge le sacrificateur sur la loi, disant, si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain ou quelques mets ou du vin ou de l'huile ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent et dirent non. C'était pourtant de la chair sainte. Oui, ben, la sainteté ne se transmet pas. La pureté ne se transmet pas. Il touche des aliments, les aliments ne sont pas sains pour autant. La pureté ne se transmet pas. Et plus loin, au verset 13, là, j'ai dit, si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure? Les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. L'impureté se transmet. C'est ce qu'on trouve aussi dans les Corinthiens, n'est-ce pas, lorsque on trouve au chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Bon, de lire, parce qu'il y a aussi ici quelques réflexions à faire. Chapitre 15, verset 32. Si pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De quoi s'agissait-il ici? Mais il y en avait certains qui disaient que la résurrection avait eu lieu, qu'il n'y avait pas de résurrection. Alors, c'était peut-être de très braves gens. C'était peut-être des gens très honnêtes, des gens très moraux. Mais en supprimant la résurrection, ils supprimaient tout l'avantage du christianisme. Enfin, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. C'était tout le christianisme qui tombait s'il n'y avait pas de résurrection. Et c'était peut-être des gens très moraux, honorables et honorés. Et pourtant, le Seigneur dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Généralement, nous comprenons mauvaises compagnies, des compagnies de débauchés. Ce n'est pas le cas ici. C'est peut-être des gens très sobres, très soignés dans leur moralité. Mais ce sont des mauvaises compagnies parce qu'ils ont une fausse doctrine. Ils nient le christianisme. Et on trouverait d'autres exemples dans l'Écriture à ce sujet. Il y a dans la deuxième à Timothée, par exemple, au chapitre 2, eux c'est le contraire, au verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Là aussi, c'était peut-être des gens qui étaient très honnêtes et très honorables et très honorés. Mais pourtant, ils renversaient la foi de quelques-uns parce qu'ils disaient « la résurrection a déjà eu lieu ». Alors dans le 15, il n'y a pas de résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, en Timothée, la résurrection a déjà eu lieu. L'opposé, sans doute, les extrêmes, sans doute, mais nous trouvons cela de nos jours dans la chrétienté, toujours. Alors, il s'agit de séparer de ce genre de doctrine. Comment se séparer d'une doctrine si on ne se sépare pas de ce qui la porte? Pas possible. Comment se séparer du péché, comme il dit en 1 Corinthiens 5? Mais ça, nous le comprenons plus facilement. C'était une affaire de fornication. Nous comprenons plus facilement se séparer du péché, obligé de se séparer du pécheur, forcément. Enfin, oui, aimer la doctrine, c'est pareil. Se séparer de la fausse doctrine, c'est se séparer de l'homme qui la porte, forcément. Hein. Ici, donc, nous voyons encore, nous retrouvons les mêmes pensées de Dieu à l'égard de ce qui est pur et impur. Ce qui est pur ne se transmet pas, personnel, c'est ma relation personnelle avec le Seigneur. Ce qui est impur se transmet, et là il touche. Et alors j'ai dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi toute l'œuvre de leurs mains, ce qu'ils présentent là est impur. Et maintenant considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver dès ce jour, dorénavant, avant qu'on eût mis une pierre sur pierre au temple de l'Éternel, avant que ces jours fussent, si l'on venait un tas de 20 boisseaux, il y en avait 10, n'est-ce pas? C'était ce qu'on a lu déjà dans le chapitre précédent. C'est l'Éternel qui faisait peser le châtiment sur son peuple, et puis il n'était pas revenu au verset 17. Aucun de vous n'est revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez-le bien. Je vous prie. Dès ce jour, dorénavant, depuis le 24e jour de 9e mois, le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le bien. La semence est-elle encore dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénirai. Il fallait revenir d'abord. Alors la bénédiction me suit. C'est ce que nous sommes appelés à considérer, à savoir que l'obéissance apporte la bénédiction. Bénédiction dans la vie, s'il s'agissait de la vie quotidienne du peuple, bénédiction dans la vie quotidienne des membres du corps. Bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Pas possible. Le Seigneur est devant nous comme modèle. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Le modèle, ça a été l'obéissance parfaite. On peut dire que c'est le caractère du Seigneur sur la terre. Il est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Alors Dieu l'a haut élevé. Nous voyons maintenant, nous ne voyons plus Jésus sur la croix. Nous voyons maintenant Jésus glorifié à la droite de la majesté. Mais son chemin sur la terre, chemin d'obéissance. Et il a souffert, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, c'est dans la première de Pierre, au chapitre 2.